intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de la parution il y a quelques jours du livre « Traître, nouvelle histoire de l'infamie », vous nous racontez un général qui incarne à lui seul la figure de la trahison aux États-Unis, Benedict Arnold.
Ah oui, c'est un traître parmi les 15 autres qui sont passés en revue dans ce livre signé par toutes sortes d'auteurs, d'historiens de premier plan comme Éric Anceau, Thierry Sarment, Jacques-Olivier Boudon, j'en passe et des meilleurs. Eh bien moi, oui, en effet, je me suis arrêtée sur Benedict Arnold. Le texte est de Raphaël Laloux et dont Stéphane le disait à l'instant, c'est l'homme qui est considéré comme le traître américain par excellence parce qu'en pleine guerre d'indépendance des États-Unis, il a changé d'allégeance, il est passé du service des Américains aux tuniques rouges des Anglais. Et comment, de façon tout à fait grave et caractérisée par des activités de renseignement, en acceptant contre de l'argent de livrer aux Anglais la forteresse de West Point, une place forte stratégique dont le commandement lui avait été confié, et enfin, tout aussi grave, en 81, en commandant auprès des Anglais contre ses anciens frères de combat, frères d'armes, brièvement, certes, mais directement, une légion américaine qui était passée côté anglais. Et il a fini par fiche le camp à Londres. Il était adoré, admiré par ses hommes, dont il exigeait beaucoup. C'était une tête brûlée. Et dès 1775, il s'engage très sincèrement et intégralement pour les libertés coloniales. Il prend des forts le long de l'Hudson, il s'illustre dans une série de raids contre les Anglais. Si vous voulez, dans toutes ces premières années de guerre d'indépendance des États-Unis, Arnold est l'un des esprits dominants de l'armée américaine. C'est vraiment la figure du héros. Alors, en 1781, il obtient de Washington, qui lui fait entièrement confiance, qu'il considère comme un Lafayette, pas comme son fils, mais enfin qui a la plus grande estime pour lui. Il obtient le commandement de la garnison clé de West Point, qui est l'un des verrous de la colonie de New York. Mais à ce moment-là, l'anglais Clinton lui fait savoir qu'il lui propose une très grosse somme d'argent pour capituler, pour lui livrer West Point. Et dès ce moment-là, Arnold cède et il devient, dans les petits papiers chiffrés en anglais, l'espion Gustavus Monk. Et malheureusement pour lui, son agent liaison, un certain Major André, est arrêté par des troupes américaines et on trouve sur lui tous les documents qui désignent Arnold comme étant devenu un agent anglais. Ces documents sont immédiatement apportés à Washington, alors que Washington allait précisément arriver à West Point et retrouver son grand ami Arnold. Donc vous voyez, ça s'est joué, en plus c'est très théâtral parce que c'est très dramatique et tragique, ça s'est joué à quelques heures près. À quelques heures près, Washington arrive, l'autre a appris que son agent a été chopé, donc Arnold s'enfuit, bien sûr, il s'embarque sur un navire anglais où vont le rejoindre plus tard sa femme et ses enfants. Le jeune agent de liaison André, lui, qui était un Anglais d'origine française, figurez-vous, lui, il a été pendu, hein. Alors voilà, Arnold, le grand héros déchu, passé au service des Anglais, se retrouve en Angleterre. Et il déclarera plus tard, parce que bien sûr, il a cherché à se justifier, d'autant plus que l'histoire lui a donné tort, hein. Il a déclaré qu'il était partisan d'une paix de compromis, un retour des Américains dans le giron anglais, mais libre de leurs affaires et de certains choix politiques et juridiques. Et en fait, il y a bien des Américains qui partageaient cette idée, qui trouvaient que l'aventure de l'indépendance était un petit peu hasardeuse et qui se disaient, si les Anglais nous fichent un peu plus la paix sur le plan commercial, s'ils nous lâchent la bride, pourquoi pas rester dans le giron anglais. Et c'est cette hésitation sur l'indépendance du nouvel État qui explique le mieux le geste d'Arnold. Et dans la proclamation qu'il adresse aux Américains en 1780, il dit quand même, en gros, vous ne m'avez pas assez remercié et récompensé pour mes victoires. Là, il y avait quand même derrière ça un gros sentiment d'absence de reconnaissance. En Angleterre, il est reçu par George III. Il est consulté sur les affaires américaines jusqu'à leur terme en 1783. On lui donne des terres et des domaines au Canada. Mais c'est dans le discrédit de sa terre de naissance, dans une suite de duels scandaleux, d'affaires commerciales malheureuses, de procès, de misère, soutenu par sa famille, mais sans amis, qu'il termine sa vie au terme de 21 ans d'exil anglais à Londres. Il meurt donc le 14 juin 1801. Voilà, Stéphane, pourquoi il faut que vous pensiez constamment à nous mettre mieux en valeur, Jean-Luc et moi, car nous souffrons beaucoup de cette absence de reconnaissance de votre part. Et nous aussi, nous pourrions bien finir par écrire un nouveau chapitre de traître, nouvelle histoire de l'infamie.
Très bien, merci Clémentine. Et je rappelle que ce livre, cette série, est dirigée par Franck Favier et Vincent Aigle, est paru aux éditions Passé composé.